Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, une actualité très politico-économique. Aujourd'hui, je vous le disais, le programme économique du nouveau Front Populaire, le NFP, a été dévoilé. Les dépenses sont assez délirantes, elles avoisineraient les 280 milliards d'euros par an. Le choc fiscal est inédit, avec à peu près 50 milliards d'euros de recettes nouvelles espérées. Je vais vous détailler tout ça, mais dans le détail, dans un instant. C'est quand même tout frais. Donc le programme économique du NFP fait presque maintenant apparaître celui du Rassemblement National comme mesuré, car le Rassemblement National ne serait qu'à un peu plus de 100 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. On voit qu'on peut vendre n'importe quelle fable économique au pays. Les exemples passés ne servent décidément à rien. L'idée que le marché n'est rien, que l'État et tout résistent en France. Il y a encore des gens qui pensent que sur chaque euro d'argent public dépensé, eh bien chaque euro fabrique de la croissance en nourrissant la consommation. En tout cas, le RN, lui, son actualité est qu'il recule sur les promesses les plus coûteuses. Il n'y aura pas tout de suite ou jamais d'ailleurs d'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Il n'y aura pas d'exonération de cotisations sociales sur les hausses de salaire de 10%. Il n'y a plus de TVA sur les 100 produits de première nécessité ramenés à zéro. La privatisation des autoroutes n'est plus au programme. Seule l'abrogation de la réforme, j'ai dit nationalisation des autoroutes, non, la privatisation, la nationalisation, pardon, oui, effectivement, des autoroutes n'est plus au programme. Et puis la réforme, par contre, de l'assurance chômage sera bel et bien abrogée. Péniblement, Gabriel Attal tente d'exister en dévoilant lui aussi une série de mesures. Je vous en ferai la liste dans un instant. Oui, oui, ce serait nationaliser les autoroutes. Par contre, il est toujours prévu de privatiser l'audiovisuel public au RN. Merci Léonidas Kalogiropoulos de m'avoir corrigé pendant le sommaire.
Merci Bolloré, surtout.
Bonjour Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Léonidas Kalogiropoulos, bienvenue.
Bonjour.
Vous avez publié une chronique avec Pierre Gattaz qui s'intitule « Pour gagner ». Les partis de gouvernement doivent s'engager sur des réformes radicales, sans quoi le radicalisme des extrêmes, l'emporteront. Et donc vous dites, dans cette chronique, c'est bien beau de dénoncer les programmes à droite ou à gauche, mais encore faut-il avoir des choses à proposer en face. Parce qu'on ne peut pas faire comme si les attentes de l'opinion publique devaient être passées sous silence, et donc il faut y apporter des réponses. Vous êtes également délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Les principales mesures du côté des dépenses. On abroge la réforme des retraites, on revient à 62 ans avec un objectif 60 ans, on verra, et 40 annuités. Le minimum vieillesse monte au seuil de pauvreté à 1200 euros. Le SMIC augmente de 200 euros net à 1600 euros. Les salaires sont réindexés sur l'inflation, donc payés par les entreprises. Le point d'indice des fonctionnaires augmente de 10% tout de suite. Les APL augmentent de 10% tout de suite. Il y a un revenu d'autonomie pour les plus de 18 ans qui sont sous le seuil de pauvreté. Nous allons progressivement vers la gratuité totale de l'école, ça veut dire gratuité des fournitures, des cantines, des transports. Nous allons vers la gratuité des premiers kilowattheures consommés. Je ne sais pas trop comment ça s'incarne ensuite. Les prix des produits de première nécessité et des énergies sont bloqués. Et au face, du côté impôt, c'est le retour de l'ISF, sans doute dans une version élargie. 14 tranches d'impôt sur le revenu pour davantage de progressivité, une CSG progressive, une hausse des cotisations retraite payées par l'ensemble des actifs, une taxation des super-profits, une taxation des transactions financières, une taxation des heures supplémentaires, une hausse des droits de succession, avec l'instauration d'un héritage maximum, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait voulu en 2022. À l'époque, il disait au-dessus de 12 millions d'euros, je prends tout. Taxation kilométrique sur les produits importés, avec une connotation green. Et puis, un réflexe protectionniste avec la sortie des traités de libre-échange.
Avec ça,
Léonidas.
Plus d'investisseurs, plus d'économie, écroulement de la bourse, fuite des capitaux. C'est un moment où c'est utile quand même de rappeler qu'il y a des gens raisonnables, qu'il y a des boîtes qui grandissent, que l'économie a des fondamentaux. En revanche, ce que je trouve très préoccupant dans tout ce délire, c'est que c'est un délire qui vient essayer de répondre avec une avalanche de taxes et de dépenses nouvelles dans lesquelles l'épicentre de tout est effectivement l'État, qui vient répondre à une détresse des Français. Et je pense que si on ne se contente que de dénoncer le délire qui est effectivement caricatural de ces propositions en disant en substance, nous on est raisonnable, donc renouvelez-nous la confiance dans le pôle raisonnable central.
Ce que vous expliquez dans la chronique.
Oui, on va pas passer sous silence la raison pour laquelle les deux extrêmes sont à ce niveau-là. On a plus de 60% des Français qui votent pour des extrêmes et des programmes délirants. Ça veut dire qu'il y a dans le pays une insatisfaction qui est réelle. Et si on ne l'écoute pas pour y apporter des réponses raisonnable, certes, mais il y a apporté des réponses.
Ce que vous proposez, hein.
C'est en tous les cas, c'est la fin de la démocratie. Le moment qu'on a devant nous, c'est un moment de démocratie. Donc, on a des programmes délirants pour répondre à la détresse. Ce que l'on attend, c'est qu'il y ait des programmes raisonnables pour répondre effectivement à cette détresse des Français.
On verra ce que dit Gabriel Attal. Je vais donner la parole à Laurent Vronsky avant de faire réagir Benjamin Coria. Le côté à ma droite des entrepreneurs. tout le monde a une forme de certitude. C'est que de toute façon, comme on dit souvent. On fait campagne en vert, on gouverne en prose. Et regardez, le RN commence déjà à reculer en se disant on va quand même pas promettre la lune sans pouvoir la décrocher. Mettons sous silence et mettons fin à certaines mesures qui seraient quand même très très compliquées à financer. On le sait bien. Et donc tout le monde se dit que ben, Mitterrand 81, Jospin 97, Tsipras 2015, Mélenchon 2022, l'histoire se répétera. Et que très vite, l'économie se venge toujours. Donc la réalité reprendra ses droits et qu'énormément de ces mesures ne verraient pas le jour. Bon, c'est un peu de la spéculation. Laurent Vronsky, votre réaction par rapport... J'ai parlé là de NFP, on pourra parler si vous voulez du RN, on l'a fait la semaine dernière. Mais comment réagissez-vous?
Je vais jeter un petit regard optimiste.
Allez-y.
Dire qu'en ce moment, on en manque. Je me dis, mais c'est dingue, finalement. Il y a encore une semaine, tout le monde se grattait la tête pour faire des économies, et puis on avait peur de ne pas passer le budget, et on essayait de se dire qu'est-ce qu'on va faire en 2025, etc. Et puis là, finalement, je me dis, mais... Moi, j'ai rien compris. On est dans un pays extrêmement riche, avec tous ces programmes, tous ces milliards qui pleuvent. À une époque, l'unité, c'était le milliard. Maintenant, c'est par 10 milliards, 100 milliards. Je me dis, écoute, Laurent, t'as rien compris. Finalement, on est dans un pays qui est super riche pour qu'on puisse se permettre ces choses-là. Bon. Alors maintenant, passer mon petit quart d'heure impertinent, moi, je regarde le côté économique de la chose.
On est là pour parler d'économie, si vous le savez.
On est là pour parler d'économie. Donc ça, je ne partage pas mes convictions politiques. Mais je pense que des deux côtés, les mesures sont complètement intenables. Alors, ce que vous dites est exact. Effectivement, on peut avoir des gens qui vont boire un petit peu trop et puis avoir une gueule de bois. La question, c'est combien de temps ça dure. Je rappelle quand même qu'on est dans un environnement international qui est extrêmement tendu, extrêmement fragile, au niveau géopolitique, au niveau économique, et que donc, on peut avoir des poussées de fièvre à court terme qui peuvent être mortifères. Il ne faut pas croire un instant qu'on peut mettre en œuvre des programmes économiques qui sont tels que ceux que vous avez décrits, et puis que 4 mois plus tard, on va faire machine arrière, et puis on va revenir à une situation normale et on va rentrer dans le rang. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer.
Très douloureux.
Alors, je fais réagir Benjamin, juste pour aller dans le sens de ce que vous disiez, il y a un point important sur le programme du Nouveau Front Populaire, c'est qu'il est en 3 temps. Il y a on arrive et tout de suite on fait ça, il y a ensuite, bon, sur une durée 100 jours, et au-delà de ça, le truc c'est que dans le premier temps, les 15 premiers jours, c'est là où il y a l'abrogation de la réforme des retraites par décret, donc quand on a abrogé les 64 ans, qu'on est revenu à 62, on peut pas expliquer aux gens, 4 mois plus tard, finalement, voilà. il y a également la hausse de 10% du point d'indice. Quand on aura dit aux fonctionnaires, on vous a donné 10%, on ne leur dira pas 4 mois plus tard, c'est fini. Il y a pareil pour les APL et la hausse du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté à 1200 euros. Pareil, on ne dira pas aux titulaires de minimum vieillesse à 1200 que finalement ils reviennent aux alentours de 1010 ou 1015 euros. Bon, par rapport à ce qui a été dit, Benjamin Coria, comment réagissez-vous de votre côté ?
Je vais commencer par deux préliminaires. Le premier, c'est, je vais rebondir sur ce que vous dites. On a l'impression qu'on est dans un pays riche, etc. Non, on n'est pas dans un pays riche, malheureusement. On est dans un pays qui a échoué. On est dans une politique économique qui a échoué. Alors, je vais vous rappeler quelques fondamentaux, parce que vous avez l'air de pas les avoir en tête. La dette a explosé. Le déficit budgétaire, il est à 5,2. Le commerce extérieur, on l'a jamais eu à ce niveau-là. Et on vient d'être dégradé. Donc, du point de vue des agences de notation, Dieu sait que je les adore pas, mais enfin, quand même, vous devriez leur accorder de l'importance. Bon, donc on a échoué lamentablement sur le plan économique. Et sur le plan politique, je dis même pas, hein, puisque l'opération de constitution du centre, elle s'est reconstitution du centre, elle s'est traduite par la reconstitution de deux blocs. Bien. Et l'opposition droite-gauche n'a jamais été aussi violente. Donc on est en déroute, vous êtes en déroute, ceux qui ont soutenu ce programme politique et ce programme économique. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le programme du Nouveau Front Populaire.
Oui.
Est-il un programme de rupture ? Oui.
Ah oui, oui.
Oui.
Ah oui.
Non, mais oui.
Oui, oui.
Mais assumé comme tel.
Ah non, non,
mais assumé comme tel.
Ah non, mais
alors,
c'est un programme de rupture.
Deux choses. Deux choses. Premièrement, vous l'avez dit, ça s'échelonne en trois temps.
Oui.
Hein, et donc tous les chiffrages de tous les docteurs.
On va dire que c'est en année pleine. Voilà.
Laissez-moi finir.
Oui, oui, je vous laisse.
Tous les chiffrages de tous les docteurs diaphorus qui nous ont conduits là où nous sommes, ou rien, pour moi c'est pareil. Parce que si. Ils avaient été capables de chiffrer à temps le désastre dans lequel on serait conduit, et s'ils l'avaient dit, peut-être qu'on l'aurait évité. Donc je veux dire, ce qu'ils disent ou rien, c'est pareil. De toute façon, c'est les choses qu'on a déjà entendues, qu'on réentendra chaque fois qu'il y aura une perspective de gauche dans ce pays. Et il y a eu 81, et juste après, il y a eu... Enfin, 7 ans après, il y a eu 88. Le même. Bon, donc je veux dire...
Entre-temps, il y a eu 80
non, mais je vais, vous dire une chose, on est blindés, on les connaît ces histoires, qu'on va dans le précipice, que ceci, que cela. La situation aujourd'hui de la France a l'air d'inquiéter personne, à droite. Bon, moi, si j'étais à la place des responsables économiques et politiques de droite, je serais quand même très, très inquiet de ce qu'on a fabriqué. Bien, alors, comment dire... je dis pas que...
Mais au-delà de dénoncer l'échec...
Ça y est, non mais, oui. On est en situation d'échec, donc une rupture est nécessaire.
D'accord, une rupture est nécessaire.
Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense ? Le détail de chacune des mesures, etc., on peut en discuter à l'infini. La philosophie, elle est extrêmement claire. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais employé une expression qui vous a fait tiquer.
Allez-y.
J'avais dit, on peut pas rester dans le désordre fiscal actuel. Je maintiens. L'état du système fiscal français, avec la situation qui fait aux revenus du capital, aux grandes entreprises, aux milliardaires, etc., alors qu'il y a ce niveau d'inégalité, et alors qu'on a devant nous la transition écologique, c'est une situation fiscale complètement inappropriée, complètement à côté de la plaque, et qui ne réussit même pas à nous faire tenir dans la conjoncture. Je parle même pas de l'avenir.
Bon.
Donc il faut un choc fiscal.
Il y est.
Il y est. Alors, maintenant, la question... Alors, on peut faire plein de reproches à la gauche, mais à la différence du programme, par exemple, du Front National, c'est que l'idée du choc fiscal, elle est à la base... du programme. Est-ce que ce choc fiscal... Alors, après...
Benjamin Coria, après, pardon.
Terminé, Benjamin, et on passe à la parole. Mais terminé.
Après, tout va être une question de... Moi, je ne dis pas du tout que c'est garanti qu'on va y arriver. Hein. Je ne dis pas ça. Hein, vous voyez, bon, tout va être une question de cadencement.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire, dans quel ordre on va faire les choses, comment on va les financer. Voilà. Alors, il y a... Sur les premiers 100 jours, il y a des dépenses, mais il y a des recettes. Parce que, sur les premiers 100 jours, une partie du choc fiscal être réalisée. Toute la question, comme pour toute politique économique, hein, ça va être les conditions, c'est le fine-tuning, ça va être les conditions dans lesquelles, au fur et à mesure qu'on engrange des recettes, on fait des dépenses, ou à l'inverse,
d'accord,
comment certaines dépenses peuvent générer des recettes. Parce que les Non.
Oui, oui, mais je vous entends, Benjamin.
Les hausses de salaire, c'est de la demande effective et c'est des recettes fiscales.
Benjamin Coria, je suis désolé, c'est bien que l'on ait cette contradiction. Enfin, tant mieux que l'on puisse avoir sur cette antenne des débats. En tous les cas, ce que vous dites en nous adressant à Laurent Wronski et à moi-même, en disant votre politique, moi je défends une chose ici, c'est la seule, c'est les entrepreneurs et l'entreprise. Et sa capacité à produire des richesses et à distribuer du pouvoir d'achat et à faire croître notre pays. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas dire que la totalité de la politique qui a été menée est à l'échec. Parce que globalement, non pas qu'il y ait une satisfaction généralisée.
Non, laissez-le terminer.
non pas qu'il y ait une satisfaction généralisée des entrepreneurs sur tous les fronts, mais globalement, on avait de la visibilité et on avait globalement le sentiment que nos interlocuteurs se disaient, s'il y a des entrepreneurs qui sont préoccupés par un certain nombre de sujets, il faut en tous les cas l'écouter. Vous êtes en train de dire que tout ça, faut en faire table rase, qu'il faut un choc fiscal dans lequel tout ce qui était de la visibilité doit être remis en cause. Ça fait fuir les investisseurs, ça fait fuir les entrepreneurs, ça fait fuir tous ceux qui nous ont prêté de l'argent avec une situation qui est dégradée. Moi, je ne vais pas vous dire que la situation du pays est idyllique. Si elle était idyllique, il n'y aurait pas deux extrêmes à 30% de part et d'autre. Donc ça, je sais qu'elle n'est pas idyllique et je sais qu'il y a des choses à corriger. En revanche, que vous adressiez, que vous pointiez du doigt les acteurs économiques en disant on va les taxer, on va les contraindre, on va mettre globalement toutes les solutions qui vont passer par l'État ponctionner pour remettre ailleurs, c'est juste casser l'économie. Et je ne vois pas comment vous allez pouvoir mener une politique de gauche qui a, peut avoir ses vertus en ayant cassé l'économie. Et ça, je vous demanderais, puisque vous êtes économiste, de nous expliquer comment l'économie et les entreprises survivent, non pas aux 3 mois, mais déjà aux 15 premiers jours de ce programme. Moi, je ne le vois pas.
Alors justement, Léonidas Kalogiropoulos, sur la question du fine-tuning qu'évoquait Benjamin Coria, le moment où on engage les premières mesures, comment on finance ces premières mesures à ce moment-là, pour voir après comment on fait. Bon, Aurélie Trouvé, qui est la personne au sein de NFP, qui est chargée de la réalisation de ce programme et de son chiffrage précis, qui n'a pour l'instant pas été totalement dévoilé, et quelqu'un qui connaît l'économie, je le sais. Voilà. Alors après, il peut y avoir des idéologies, mais elle connaît l'économie. Je dis que connaître l'économie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un spread de taux, qui sait ce que c'est que l'agence France Trésor, qui sait ce que c'est qu'une adjudication de dette publique française, qui sait ce que c'est que d'avoir le surin des marchés dans le dos à un moment où vous n'inspirez plus confiance, qui sait ce qui se passerait si l'euro était mis en risque à cause d'une perte de confiance et d'une perte de patience de la part de nos partenaires du nord de l'Europe, oui, qui sont aux alentours des 65 ou 60% de dette publique. Elle sait. Il y en a sûrement qui ne savent pas, qui pensent que, pouf, mais il y en a qui savent. Benjamin fait partie de ceux qui savent. Oui, et Aurélie Trouvé fait partie de ceux qui savent.
Eh bien,
ce qui veut dire que ce ne sont pas des incompétents.
Non, mais, voilà. Mais j'aimerais que l'on puisse avoir des idées de politique sociale.
J'y crois pas, moi, à ce programme. Mais
ça ne me choque pas. Voilà. Mais qui soit compatible avec le fonctionnement de l'économie et la confiance des entrepreneurs et des investisseurs.
Benjamin, réagissez si vous voulez. Pas trop long pour que la parole circule.
Non, je ne vais pas être trop long.
Et Laurent Wronski.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Moi, je n'en veux pas à l'entreprise, hein, et je sais ce que l'entreprise est capable d'apporter à l'économie. Bien, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. L'entreprise n'est pas une fin en soi. Hein. L'entreprise, c'est un des acteurs de la vie économique qui doit se reproduire dans les meilleures conditions possibles en produisant autour de soi du bien-être, c'est-à-dire du plein emploi, de la longévité en matière de santé, etc. Bien, donc la discussion, elle est là. Hein, personne, hein, personne à gauche ne veut s'en prendre aux entreprises. Au contraire, ils ont peut-être tort, hein, mais ils pensent que le meilleur moyen d'aider l'entreprise, c'est un ensemble de mesures qui sont celles qui sont là-dedans, plutôt que autre chose. Autrement dit, pour le dire en clair, c'est d'assurer une demande à travers les salaires. C'est un programme dans son essence keynésien. Vous pouvez contester ça, mais ils en veulent pas. L'entreprise. Non, bien. Mais quant à la taxation, c'est pas d'abord sur l'entreprise qu'elle porte, c'est sur les hauts patrimoines, c'est sur les riches. Chiffrez et vous allez voir. Y a-t-il prévu une augmentation de l'impôt sur les sociétés ? Non. Non.
Non, il y a une hausse du coût du travail par le SMIC et une hausse du coût du travail.
Oui,
par la réindexation des salaires sur l'inflation.
Il y a une hausse du coût du travail par le SMIC, mais comme vous le savez, on ne revient pas sur le fait que jusqu'à 3 SMIC, les charges patronales sont annulées. Bien.
Allégées. Donc, elles ne sont pas annulées à 3 SMIC.
Oui, pratiquement annulées.
Non, elles sont annulées à 1 SMIC.
Donc, regardez bien le programme. C'est les riches. Lisez Zucman, qui a travaillé sur ces questions, qui est un collègue de Piketty. L'essentiel de la taxation va porter sur les revenus, sur les patrimoines, au-dessus de 12 millions d'euros. Bien. Donc, je veux dire, vous pouvez vous opposer à ça.
Non, mais moi, Benjamin,
je voudrais juste un mot. Alors, Léonidas, c'est plus Laurent.
Parce qu'on est d'accord sur un point. et ça est le point, l'accord qui me semble absolument fondamental. Si on veut qu'il y ait un consensus national autour de l'entreprise, il faut que le travail paye.
Oui.
Ce que le travail ne paye pas, c'est une rupture de la
mais
promesse sociale et de la promesse républicaine.
Moi,
le travail ne paye pas assez. Or, l'analyse que nous sommes nombreux
on
à
en
faire
parle juste après,
sur le fait que le travail ne paye pas suffisamment, c'est le fait que les charges sont trop lourdes, que la totalité de notre modèle social repose sur les salaires, et tout simplement parce que l'on a imaginé un modèle social partant de chômage de masse. Il faut que notre modèle social repose sur d'autres points. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvions pas, ensemble, être d'accord sur un report sur une TVA sociale, notamment pour faire payer les fameux 100 milliards de déficit commercial dont vous parlez.
On le développe, on développe juste après ce point, si vous voulez bien. On a 1 minute 30 avant de marquer une pause, Laurent Wonski, par rapport à nos échanges depuis le début de cette émission. Là, Benjamin nous disait, c'est d'abord la taxation des plus riches et des patrimoines bien qui sûr sera concernée plus que les entreprises.
L'impôt sur les sociétés n'est pas touché.
J'ai pas effectué. Non, l'IS n'est pas touché. Il y a la réindexation des salaires sur l'inflation, la hausse du SMIC, la hausse du SMIC de 200 euros, qui quand même fait partie des éléments qui impactent le coût du travail. Il y a la CSG progressive, là, ça peut impacter les salaires nets. Il y a la taxation des super-profits, toutes les entreprises ne sont pas concernées. La hausse des cotisations retraite, a priori, c'est tous les actifs qui sont concernés. Les transactions financières, bon là, on est sur autre chose. Les heures supplémentaires qui seront taxées davantage. Oui, Laurent.
Sauf erreur non de ma part, il n'y a aucune nationalisation.
Non.
C'est pour parler d'entreprise, vous voyez. Donc, modérez ce que vous dites, regardez le programme.
Il n'y a pas de nationalisation, non. Oui, Laurent, si on a une petite minute, là,
alors, juste 40 secondes,
un teasing.
Court,
hein, bon, teasing, alors teasing.
Ou sinon, il va falloir être concis.
Bon, sinon, je marque la pause tout de suite, vous préférez ?
Très bien, faisons ça.
On fait ça comme ça. On marque la pause tout de suite.
Peut-être juste dire quand même à Benjamin Carrière que quand on est à 6 points de chute de la bourse, avant même que quoi que ce soit passé, c'est que quand même, vous avez...
Il y a un problème avec les décisions du président. Il y a un problème avec les décisions.
Je
pense, président, je suis d'accord.
Alors,
Léonidas, là, effectivement, je rejoins. Je pense que la réaction de marché est d'avoir une réaction à la décision d'Emmanuel Macron.
Évidemment.
Qu'ils sont trop frais, ces programmes. Les 500 points de recul du CAC de la semaine dernière, on ne connaissait pas le programme de. Bon, vous pouvez imaginer globalement, mais je crois que le choc politique, c'est l'annonce de la dissolution. Après viendra la suite, oh là là. Mais c'est vrai que le spread, Bund, OAT, était à 45 points de base lundi dernier, il est à 80 aujourd'hui. C'est pas, y a pas le feu, mais c'est notable. On marque une pause.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés et auteur du Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les Liens qui libèrent. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Laurent Wronski, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. François m'écrit, le programme de gauche en 80 était aussi chiffré et soutenu par des économistes très sérieux. C'est vrai, y compris d'ailleurs celui de François Hollande, je me souviens. On a vu ce qui s'est passé après, mais à l'époque, l'endettement du PIB était de 20%, les marchés mondiaux n'étaient pas interconnectés et mondialisés comme aujourd'hui. Il y a Nicolas qui m'écrit, Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas raison en disant que la France veut l'identité, la sécurité, l'autorité ? Ce sont les fondations d'une société et les pouvoirs régaliens de l'État. C'est un élément qui ressort de la chronique que vous avez signée avec Pierre Gattaz, Léonidas. Laurent m'écrit, des riches en France, je crois rêver, ils sont déjà surtaxés. Un pays sans riches est un pays de pauvres. La France, le pays où on est puni de réussir. La gauche prend toujours aux autres ce qu'elle ne peut gagner, m'écrit Laurent. Il y a plein de réactions. Laurent, je vous ai promis la parole, on y va. Et puis continue à...
Merci de me donner le champ libre.
Mais voilà. Enfin, alors, le champ libre.
Monsieur Corrière dit qu'au clair, je ne connaissais pas les chiffres, mais moi je les vis. C'est la grosse différence entre nous deux. Et il faut bien se rappeler que l'économie s'écrit en temps réel grâce aux entreprises. Donc je suis parfaitement au courant des chiffres. Mais moi, je ne suis d'aucun parti politique, je défends le parti de la concrétude. Et donc, moi je porte un regard sur les programmes économiques qui sont présentés et qui reflètent ce que je sens depuis à peu près une petite dizaine d'années. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'entreprise, c'est un peu comme une gouttière. Et en plus, je suis une entreprise industrielle. Donc, je ne suis pas installé avenue Montaigne, je suis installé, ce n'est pas un problème, mais je suis installé à Argenteuil. Et on est une vraie pyramide, on est un vrai village gaulois. Et ce que je sens depuis 10-15 ans monter, c'est la polarisation de la société. Et je crois que ce qu'on vit actuellement, finalement, reflète cette polarisation. Et ça, c'est jamais bon. Ça veut dire qu'en clair, plutôt que d'essayer globalement de vivre ensemble, alors je ne suis pas non plus d'une naïveté sans bornes et je ne pense pas qu'on va tous s'embrasser sur la bouche, mais globalement, je dirais, je sens qu'il y a le camp des bons et le camp des méchants. Et ça, ça me déplaît parce que je pense que c'est porteur de très mauvaises nouvelles. Si le pays va bien, on espère et on souhaite qu'il profite au plus grand nombre. Simplement, je pense en mon âme et conscience que compte tenu des finances publiques, je rappelle que je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais enfin, M. Macron n'est pas arrivé dans un gouvernement avec une situation idyllique. Je veux dire que là, on arrive quelque part à peut-être à l'heure de vérité, qui j'espère ne sera pas violente, d'une politique de 30 à 40 ans.
C'est ce que disait François Eckhall lorsqu'il a été entendu par la commission sur la dette de Philippe Juvin. Il a expliqué que le supplément de dette qu'on attribue comme ça à Covid, non, la moitié, la dynamique de l'héritage du passé, explique François Eckhall, qui sait vraiment de quoi il parle. Voilà.
Mais par
il exonère pas l'exécutif
donc,
de ses
clair,
responsabilités,
mais il explique. Je parle de ça non pas pour défendre le gouvernement, mais pour expliquer que finalement ce à quoi nous faisons face, c'est pas les choses qui, comme vous dites, se règlent avec un tout petit décalage du réostat. Ce sont des mouvements importants, des lames de fond importantes, et malheureusement qui résultent à plus de 1300 milliards de dettes, ce qui donne mal à la tête à une aspirine. Maintenant, je voudrais donner une dernière remarque sur les gens intelligents qui connaissent et qui pondent des choses. Alors, je vais modestement mettre ma casquette Croissance Plus.
On est à 3000 milliards de dettes.
Je le répète, alors. Oui, pardon, excuse-moi, 3000.
Oui.
3100, oui, parce que j'ai
un peu plus. 1003, c'était les dépenses publiques qui d'ailleurs sont plutôt à 1006 aujourd'hui.
C'est de la dyslexie économique. Mais depuis à peu près 25 ans, nous, on fait du lobbying auprès des pouvoirs publics.
Et Croissance est, Plus, non.
Voilà, et on est apolitique, je veux dire qu'on défend le parti de l'entreprise. Le nombre de gens que j'ai vu comprendre les choses, ils le comprennent parfois mieux que vous. Le mesurer, ils le mesurent mieux que vous. Avoir accès à de l'information auquel vous n'avez pas accès et qui, en clair, pour des raisons purement politiques et dogmatiques, ce qui est encore pire, prononce un avis qui est contraire au bon sens et à l'intérêt général, j'en ai vu un paquet. Donc pour moi, ça n'est pas une garantie et ça n'est pas quelque part un rail de sécurité. Et là, je pense qu'on vit un moment, on le sent bien d'ailleurs, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, je veux dire, ça discute partout, je veux dire que où vous alliez, je veux dire qu'aujourd'hui, les scénarios changent quasiment à l'heure, il y a ceux qui vont prévoir le pire, etc. Ce que je sais, c'est que on ne peut pas, je dirais, piloter un pays d'un point de vue économique avec de l'incertitude, avec du dogme, sans visibilité. Et là, je pense, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, c'est-à-dire ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec les États-Unis, je rappelle qu'il va y avoir les élections bientôt, qui se passe avec la guerre se rapproche, la guerre est aux portes de l'Europe. Alors je sais bien que quand il fait beau et qu'on est à Paris et qu'on voit tout le monde à la terrasse des cafés, je dirais, on se dit, mais non, la guerre est loin. Mais non, la guerre n'est pas loin, c'est une réalité. Donc, quand on voit tout ça, je veux dire qu'il faut plutôt essayer d'être un parti de bon sens, pour préserver nos acquis et pouvoir penser nos plaies, plutôt que de faire des grandes manœuvres à 180 degrés.
Il y a Alain réagit en m'écrivant que d'après lui, enfin il dit, considérant que je me trompe, la réaction des marchés de la semaine passée est majoritairement due au fait que les investisseurs redoutent un Frexit plus ou moins déguisé. Bon,
mais peut-être juste pour boucler ce que vient de dire Laurent,
et
c'est vrai
Benjamin
que je garde toujours ce souvenir un peu, avec le recul, choquant de se dire, on vient d'étudier je ne sais pas, la préparation de la Seconde Guerre mondiale, le réarmement allemand, et pendant ce temps-là, on faisait les congés payés à Paris. Enfin, il y a une tension généralisée, on est en train de regarder effectivement notre situation. Alors, idéalement, on devrait avoir une capacité à avoir une union des forces pour essayer de résister à tout ça. Je trouve que vous avez défendu effectivement un plan de rupture. Vous l'avez dit vous-même,
il y a une rupture.
En revanche, je regrette que vous n'ayez pas eu à cœur de mettre des entrepreneurs autour de vous, de réfléchir à ce qui est notre préoccupation commune, parce que je vous assure qu'elle est réelle. Lorsque pour avoir réussir à mettre 100 euros dans la poche de nos collaborateurs, on est obligé d'en débourser 350 à 400.
Au niveau du SMIC, SMIC, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord.
Je le précise, parce que c'est là où il y a zéro cotise patronale ou quasiment.
Bon, donc, on est devant une problématique qui est une problématique de modèle. Donc, on peut travailler ensemble à se dire comment est-ce que l'on a une rupture pour que les grands équilibres changent. Parce que l'on voit bien que l'on est sur un déséquilibre de nos comptes et une insatisfaction généralisée.
encore une fois, qui est la rupture de la promesse que le travail doit payer. Lorsqu'un jeune commence à travailler, il doit se dire, waouh, c'est super, je suis rentré à la vie active. Or, c'est une frustration permanente. Et ça, nous sommes à vos côtés pour essayer de trouver des solutions. Mais vous l'avez fait totalement à rebours de nous.
Justement, c'est l'une des mesures dans cette chronique avec Pierre Gattaz, c'est l'une des mesures concrètes que vous mettez en avant. Il faut plafonner à 20% du salaire brut les cotises sociales, dites-vous, et donc aller chercher 0,5 à 1 point de TVA.
Oui, un point de TVA, et notamment parce que ça permettrait de faire payer toutes les importations que nous avons qui ne contribuent en rien au financement de notre modèle social. Mais pardonnez-moi, Benjamin Coria, parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faudrait aussi avoir à l'esprit. Ce que Laurent souligne sur la polarisation et la violence dans la société, comment voulez-vous que l'on l'entreprenne lorsque on a dans des villages, dans des villes, des poussées de violence et que en 3 heures de temps, vous avez le travail de toute une vie qui est saccagé. La nécessité de remettre la société en ordre.
Ça, c'est le mantra du RN. Hein.
Non, mais je ne sais pas si c'est le mantra du RN.
Décalé des mesures éco pour dire que la priorité.
D'accord. Voudrais vous le dire et personne ne peut soupçonner un instant que je puisse avoir la moindre sympathie pour le Rassemblement National. Mais si on gérait, on prenait les problèmes et qu'on y apportait des solutions, le RN ne montrait pas. On ne peut pas dire, parce que c'est compliqué de trouver des solutions à des problèmes réels, la sécurité, l'immigration quand elle ne réussit pas, un certain nombre de sujets qui sont dans l'ADN du RN, comment a-t-on pu laisser au RN l'exclusivité de prendre ces sujets à bras-le-corps, les autres disant si on s'en occupe, c'est qu'on devient RN. Ça fait partie d'une république normale de traiter les problèmes lorsqu'ils apparaissent. Les nier, c'est juste donner une autoroute aux extrêmes. Ça, c'est un véritable
problème. Des années de déni lorsqu'effectivement ces thématiques étaient notamment à l'époque le fer de lance du discours de l'ancien.
Ça fait partie de la préoccupation des entrepreneurs. Je voudrais rendre hommage à Laurent Vronsky, qui est l'un des meneurs de Espérance Banlieue. Ce que font les entrepreneurs pour prendre des sujets comme cela à bras le corps est absolument exceptionnel. Et je trouve, voyez-vous, que l'on pourrait aller regarder ça ensemble.
Espérance Banlieue est une initiative d'enseignement scolaire pour les milieu difficile, totalement pris
sur le programme du RN.
Et nous avons ouvert notre 18e école.
Allez-y, Benjamin. Allez-y.
On dérive sur le programme du RN.
Non, mais on dérive pas.
Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et je vais juste quand même donner le message.
Allez-y.
Le programme du RN, c'est une chose invraisemblable. Parce que
le programme
c'est...
quoi Éco?
Le programme Éco, bien sûr.
Il est de gauche.
Parce que c'est un programme. Mais enfin.
Il est de gauche,
c'est un programme qui met la xénophobie au centre. Au centre du programme économique. Ça veut dire que si vous cherchez les économies annoncées par le RN, il y en a 35 milliards sur de l'argent qu'on ne va plus donner aux immigrés.
Mais c'est
pratiquement, il n'y a rien d'autre.
Les montants ne sont pas crédibles de secondes.
Mais c'est totalement incrédible parce que c'est des mesures inconstitutionnelles, parce que jusqu'à présent, nous sommes en République.
C'est effectivement, avez raison,
le
constitutionnellement.
RN a l'air de l'avoir oublié. La moitié des mesures sont anticonstitutionnelles.
Constitutionnellement, il ne peut pas y avoir de rupture.
Les mesures, soi-disant, de dégrèvement des impôts pour les jeunes de 30 ans, c'est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt.
Ils ont renoncé à celle-là.
Préférence nationale introduite comme elle est, c'est contraire et le Conseil d'État l'a déjà montré. Bon, donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien. Donc, on ne parle pas de ça si vous voulez. Moi, je reviens quand vous voulez. Alors maintenant, je vais reprendre ce que vous dites. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, hein, et y compris cette action dans les quartiers, etc. J'y suis extrêmement sensible. Alors, j'ai deux choses à dire. Bon, premièrement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis complètement extérieur à toute la machinerie politique de ce qui est en train de se faire. Moi, je suis un économiste de gauche, on va dire, externe, et c'est comme tel que je m'exprime.
Non, mais vous n'êtes pas dans l'NFP
je
suis d'accord.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté.
Rien à voir avec la machinerie politique. Rien. Bon. Alors, quand vous dites « il faut être raisonnable », eh ben oui, moi je suis d'accord avec ça.
Il faut être pragmatique.
Oui, raisonnable et pragmatique. Non mais la question que je pose c'est est-ce qu'on est raisonnable lorsqu'on impose une réforme aussi majeure que la réforme des retraites contre 80% du peuple sans la faire voter par personne? On est raisonnable quand on fait ça? Non, on provoque cette polarisation aux extrêmes. On est raisonnable quand on dans le niveau d'inégalité qu'on a aujourd'hui, on va chercher 2 ou 3 milliards sur le dos de l'assurance chômage. On est raisonnable ? Non, on n'est pas raisonnable. C'est ça le fond de la question. Bien, et je pourrais continuer. On est raisonnable quand on annonce une taxe sur les surprofits invraisemblable, hein, qu'on fait les pétroliers, les gens du transport maritime, ceux de la pharmacie, et qu'on récupère 350 millions, on est raisonnable ? Non, on ne l'est pas. Dites-le !
Benjamin, il est vrai que ça a été un échec total, cette taxe. Mais ils ne sont pas responsables, mes chefs d'entreprise, en face de vous.
Donc, il faut faire autre chose.
Parce que nous aussi, on n'est pas partie prenante à la politique, vous savez.
Donc, il faut faire autre chose. Donc, vous voyez.
Je précise que le dernier rapport du COR, signé Gilles Berset notamment, a indiqué que les actuels 64 ans ne suffisaient déjà pas à trouver l'équilibre dès 2024.
Mais Gilles Berset, il a été placé là pour dire ça. Je veux dire. Mais non.
On pouvait.
Il est au moins autant politique qu'économique.
Je vous le mettrai ici en débat, on vous débattra.
Écoutez, le limogeage de l'ancien patron du COR, il a été motivé de manière absolument politique. Bien. Et Gilles Berset, il est nommé de manière politique.
Mais c'est un choix politique.
Je connais fort bien Gilles Berset,
C'est un choix politique, le COR, on est bien d'accord. J'ai dit autre chose. Hein.
C'est un choix politique du directeur du COR.
Mais pardonnez-moi, Benjamin Corrière, par exemple, sur les retraites, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un problème sur les retraites.
Mais bien sûr qu'il y a un problème sur les retraites, mais bien sûr. Bon. Mais il y a 36 manières de les financer. Ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, on est passé d'un truc génial, par point, purement conceptuel, à un truc entièrement paramétrique.
Non, mais ça a été discuté pendant 5 ans pour être décidé en 3 mois. Je veux bien.
Mais je
ne suis pas en train de vous dire que c'est bon. Je vous dis simplement que le problème du grand n'importe quoi des retraites est réel, et vous avez systématiquement une recette qui est d'aller taxer les riches. Donc je veux bien. Vous avez toujours la recette.
Benjamin, laissez-le réagir aussi.
C'est quand même votre ligne permanente. On sait où il y a de l'argent et il faut le prendre là où il est. Maintenant, ça peut pas être une réponse à tout. Et là où en revanche on peut se retrouver, c'est que la réforme de l'État n'a pas été faite. Elle n'a été faite sur rien, la réforme de la décentralisation. Mais vous ne la faites pas davantage. Là encore, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, alors que le torrent étatique est sorti de son lit, et il faut le remettre parce que les dépenses explosent de partout, et c'est un des raisons d'être de nos déficits permanents. Cette réforme de l'État, elle devrait nous réunir.
J'ai dit que je suis en dehors de la machinerie.
Mais moi aussi, je suis en dehors de la machinerie étatique.
C'est pour dire quoi ?
Que Laurent ait la parole un peu, quand même.
C'est pour dire que si j'avais la main, c'est probablement pas ça que j'aurais fait. Bien. Ceci dit, maintenant, je dois choisir. Et en fait, en l'occurrence, c'est entre le RN et son programme xénophobe et ce que va essayer la gauche. Donc, pour moi, c'est tout choisi.
Okay.
C'est réglé.
Laurent Vosky.
Non, mais je voudrais juste vous dire quand même, monsieur Laurent.
Ah bah, vous pouvez le dire, j'ai rien dit, ça ne va pas être dur de me répondre.
Je voulais vous dire qu'il y a une conférence nationale sur les salaires qui est prévue, et ça sera le lieu dans lequel les entreprises pourront s'exprimer. C'est ça qui est prévu. Donc, je veux dire, chose par chose. Je ne dis pas que tout ça va donner des résultats merveilleux. Je ne dis pas ça. J'ai plus 18 ans, j'ai plus la naïveté qu'on peut avoir à ces âges-là. Mais je dis que il n'y a pas d'autre solution que de prendre l'autre voie.
Il y a John qui me dit, et la gauche antisémite, vous en parlez ? Je lui réponds non, John, pas ici, on parle d'économie, là, c'est un peu au-delà. Laurent Vronsky.
Donc sur les salaires, je rassure M. Corrière, moi j'ai pas besoin d'une conférence pour en parler, j'en parle quasiment tous les mois, et ce depuis 35 ans. Et en plus je les verse, donc ça, je pense que, si vous voulez, je pense avoir une vision assez concrète de la chose. Alors, je vais revenir sur le mot que vous avez employé, j'ai pas dit raisonnable, j'ai parlé de pragmatisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de pragmatisme et pas de dogmatisme. Simplement, ce qui est une évidence, et là je n'invente rien, c'est que quand on a un pays qui est polarisé, j'ai repris quand même plusieurs entreprises dans ma vie et j'ai dirigé pas mal d'équipes. Quand vous avez des équipes qui sont polarisées, peu importe le côté, c'est quelque part un signe qu'on vous envoie, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'un pays qui finalement n'existe pas. Je veux dire, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc ce qui est une évidence, c'est que là aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est pas arrivé la semaine dernière, c'est le fruit de beaucoup de choses, vous en avez parlé tous les deux, je suis d'accord avec la plupart des constats, je suis juste pas d'accord avec certaines des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans cet état de polarisation, de pointage de doigts. C'est ta faute, c'est pas ta faute, t'aurais dû venir faire ça, t'aurais dû dire ça. Je veux dire que je dis simplement qu'au niveau économique, et encore une fois, je connais l'économie parce que je la vis, je dis qu'on est dans une situation qui est extrêmement fragile, extrêmement nerveuse. Ce que je trouve très préoccupant, c'est que moi, je vois des chefs d'entreprise toutes les semaines. Ce que j'entends depuis 8 jours, c'est on met le pied sur le frein. Donc, avouez que c'est quand même assez schizophrénique. Je veux dire, il y a encore 15 jours, on accueillait des chefs d'entreprise du monde entier pour vendre le pays. Et moi, ce que j'entends depuis 8 jours, c'est « oulala, on va voir ce qui se passe après les élections ». Ça, c'est pas bon. Je rappelle une chose, c'est qu'on a, on a comme un budget qui tient avec des bouts de ficelle, qui table essentiellement sur des prévisions de croissance. Je n'ai pas vos compétences, monsieur Coria, en économie, mais je peux vous dire une chose, hein, c'est qu'en tout cas, juin, juillet, août, puis je vais rajouter mai où il y a eu les ponts et les viaducs, je pense que là, les prévisionnels de croissance ne vont pas être tenus. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, déjà, ça va commencer à tanguer. Après, qu'il y ait des réactions, je dirais, assez violentes, ça souligne précisément la météo dans laquelle nous évoluons.
Dans la météo, il y a des éléments très concrets en une semaine. Nicolas, il y a des projets de fusion-acquisition qui ont été mis sous silence parce que l'incertitude est trop grande. Et le fameux Biogarant, le fabricant de médicaments génériques de Servier, dont la vente aux Indiens inquiétait tant, il n'y a plus d'Indiens pour acheter depuis quelques jours parce qu'ils savent tellement. Ben voilà.
Mais
au moins, Bercy n'aura même pas eu à intervenir. Le bordel ambiant politique a suffi à faire suffisamment peur aux investisseurs indiens pour se dire on verra, c'est plus du tout sûr qu'on soit.
Je voudrais proposer.
Bon, au moins, là,
voilà l'effet positif.
Et encore une fois, je mets davantage cet effet lié à l'annonce de la dissolution qu'au programme qui n'était pas encore vraiment dévoilé.
Bon, j'entends une
Laurent, j'aimerais qu'on dise un mot aussi de ce que Attal a annoncé. Hein,
concernant, je veux dire que nos compatriotes, je veux dire, expriment à travers leur vote toute une série de choses. Il y a des préoccupations économiques, il y a des préoccupations sécuritaires, tu en as parlé, il y a aussi des préoccupations philosophiques. Et donc, j'insiste sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans l'entreprise, quand vous avez des équipes qui sont divisées, qui se font la guerre, je veux dire que l'idée, c'est pas un concours de beauté, c'est pas d'être sympathique à tout le monde, mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver un moyen opératoire pour que, globalement, on fasse avancer les gens dans la même direction. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, effectivement, sur certaines réformes de fond, on ne peut pas fonctionner en top-down. L'entreprise le vit depuis 30 ans. C'est l'une des révolutions du management. Je veux dire que le patron de droit divin qui dit « Yaka, Faucon, on fait comme ci, on fait comme ça, les barrettes, c'est moi qui les ai », ça ne fonctionne plus.
Léonidas, je veux vous donner un dernier élément d'actu du jour.
Juste un mot à Benjamin Coria. Je pense que vous avez un rôle majeur. Faites venir les responsables de gauche pour dialoguer avec les entrepreneurs. L'entreprise, c'est un lieu qui rassemble. L'entreprise est un lieu, et c'est le dernier creuset solide de la société française. C'est l'endroit où des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, n'ont pas les mêmes origines, travaillent ensemble avec un projet et avancent ensemble. Et je voudrais vous entendre tellement dire que vous allez préserver l'entreprise et que vos réformes viendront avec cette idée que l'on ne casse pas ce qui tient le pays. C'est ça qui tient le pays. Je voudrais qu'on partage cette conviction et je pense que vous avez de ce point de vue-là un rôle majeur et que vous saurez être écouté.
Non mais je vais juste un mot, hein. Aucun souci là-dessus.
Ah ben, eh bien tant mieux, et c'est très précieux et ce sera une heure utile que nous aurons passé ensemble.
Je pense que aller vers la démocratisation de l'entreprise, etc., je pense que vous ne serez même pas nécessairement contre, est une nécessité, mais l'entreprise comme l'un des piliers de l'économie, je crois que personne...
De la société.
Enfin, en tout cas, moi...
Et du pays.
Bon, ok. J'insiste, hein. L'essentiel des prélèvements, c'est sur les patrimoines et sur l'argent accumulé à titre personnel. Je répète, on ne touche pas à l'impôt sur les sociétés. Bien. Alors, après, on va voir comment les choses vont se passer. Mais je répète, pour moi, le cadencement des mesures va être essentiel. C'est ça qui va dicter si ça va passer et comment.
Proposer aux entrepreneurs de dialoguer avec eux.
Comme vous le dites dans la chronique avec Pierre Gattaz, il faut bien en face aussi, on peut pas simplement secouer des chiffons rouges, crier au loup si on n'a rien à proposer. Gabriel Attal a lancé quelques éléments programmatiques. La prime de partage de la valeur après prime Macron. Il reste jusqu'à 10 000 euros. Il y a très peu d'entreprises qui avaient déjà donné le précédent maximum qui était à 3 000, donc bon.
Mais 860 euros la moyenne.
Oui, la moyenne à peu près.
Il pourrait la mettre à 30 000, sa prime Macron.
C'est pas faux. Depuis début 2024, c'est soumis à cotisation CSG, CRDS, IR. Ça reste exonéré de cotisation sous 3 SMIC. Social, mais il y a quand même de la fiscalité. Indexation des retraites sur l'inflation, ça on l'avait déjà dit. Baisse des prix de l'électricité mi-février de 15%. Mécaniquement, ça se fait sans même que le politique ait besoin d'en parler.
une complémentaire santé publique à 1 euro par jour pour ceux qui ne sont pas couverts. Monter à 100 000 le nombre de véhicules électriques accessibles en leasing. Exonérer de DMTO les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. Avec quand même justification du revenu fiscal de référence pour éviter les effets d'aubaine. Et puis un fonds de rénovation énergétique pour les logements des classes moyennes et populaires financés par une taxe sur les rachats d'actions. Il y en a peut-être quelques-unes que j'oublie. Ça vous inspire quoi, Léonidas ? Il y a une espèce de tentative de réponse. Ça fait coin de table, hein, on est bien d'accord, mais bon.
Je veux dire que c'est assez impressionnant que la gauche et la droite, l'extrême, les deux extrêmes aient été capables en une semaine de proposer des choses qui sont certes très très discutables, et que le camp qui a décidé de cette dissolution ne soit pas capable de proposer quelque chose rapidement. C'est d'ailleurs dommage parce que Bruno Le Maire a écrit un ouvrage récemment dans lequel il y a beaucoup de propositions.
6 points de cotise vers la CSG ou la TVA.
Alors, il s'agit, voilà. Oui, mais bon. C'est une transformation du modèle social, une transformation de l'État-providence en un État protecteur. Enfin, il y a des choses, et notamment la mise à bas du mythe de la gratuité. Si on veut globalement, et je pense que nous serons d'accord pour avoir cet objectif en commun avec Benjamin Coria, que notre pays s'enrichisse, parce que je suis paniqué par le fait qu'en dehors de l'Île-de-France, peut-être du sud de la France, on est un pays qui se paupérise. Si on veut qu'il y ait un enrichissement, il faut que l'on sorte du mythe de la gratuité, qui est une espèce de course à l'accès aux biens minimaux pour les gens qui ont très peu. Il faut qu'on ait un programme d'enrichissement, et là, ça serait un programme d'enrichissement du pays, un sujet sur lequel on pourrait attendre l'actuelle majorité et ses potentiels alliés de gouvernement.
Laurent Wonski, rapide, on a une 42 devant nous pour finir.
Je trouve que, si vous voulez, ce sont des mesurettes vraiment, des choses de spécialistes. Je veux dire que quand on, là, dans le bruit ambiant, je veux dire, qui est quand même très fort, je veux dire, c'est comme si vous êtes tout seul au milieu d'une foule et puis vous essayez de vendre vos produits, vous voyez. Bon, là, je pense que, clairement, ça boxe pas dans la même catégorie. Je veux dire que les deux parties en face, les deux blocs, sont en train de proposer des choses de fond, et là, on fait de la frappe chirurgicale. Donc là, je pense qu'il faut, à mon avis, hein, je pense qu'il faut, il faut voir sa copie. Il y a des trucs qui sont très bien, mais c'est pas ça que les gens attendent.
Mot de la fin, Benjamin, on a terminé.
Non, mais j'ai presque rien à rajouter à ça. C'est absolument... Ça donne le niveau d'impréparation, quoi. C'est-à-dire faute politique commise...
L'ingénieur du chaos s'appelle Emmanuel Macron. Hein, ça.
Et ce qui suit comme infrastructure et comme artillerie économique, c'est absolument dérisoire.
Non, mais
il a absolument raison. Il fallait qu'il dise quelque chose, voilà, il dit ça.
Le fait est que le pays a effectivement besoin de solutions de choc. S'il n'avait pas besoin de solutions de choc, effectivement, les extrêmes ne serait pas à 60-70%, mais s'il n'y a pas dans le pôle central un certain nombre de mesures absolument radicales qui amènent les Français à se dire on va redevenir raisonnable parce qu'il y a des solutions qui peuvent venir des partis de gouvernement, c'est vrai que le plus inquiétant est devant nous.
En tout cas, sachez que depuis hier est paru au journal officiel le plan Avenir Climat. Vous avez la possibilité le 1er juillet, mesdames et messieurs, d'ouvrir pour vos chers enfants quelque chose qui a été calqué sur le livret A avec une assez bonne rémunération, un plafond à 22 950 euros, pour mettre de l'argent de côté et investir pour la planète. Voilà. Ça a été publié aujourd'hui. Ça faisait partie des sujets que j'avais mis, mais bizarrement, on n'a pas eu le temps. Tiens.
Et je renouvelle mon invitation à Benjamin Coria.
Venez
voir les entrepreneurs.
Benjamin Coria aujourd'hui. Léonidas Kalogiropoulos, Laurent Wronski. J'espère qu'on pourra changer de sujet cette semaine. On va voir ce que nous réserve l'actualité. À demain 9h.
Ça va être dur, je crois. Hein.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.